Bonsoir les amoureux des livres et des apéros. Il faut lutter contre l'addiction. L'addiction révèle un esprit faible qu'il faut punir, par exemple en augmentant les paquets de cigarettes ou en bannissant les voitures pour les accros de l'auto. L'addiction entrave le bien-être, mot sacré de notre époque. L'engouement pour le sport, le yoga, le développement personnel le montre. Il faut rester maître de son corps pour éviter qu'il n'impose ses caprices. Mais ça va pas, non? Oh, s'exclame la littérature. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est saine, cette Dupont-Mono? Mais vous croyez qu'un esprit sain dans un corps sain, ça fait de bons livres? Alfred de Musset était accro à l'alcool, Balzac carburait à la caféine. Théophile Gautier avait même fondé le club des hachichins, auquel avaient adhéré Baudelaire, Nerval et Dumas. Et juste avant de mourir, Aldous Huxley demanda un petit rab de LSD. Sans verser dans le cliché de l'artiste maudit, aucun écrivain digne de ce nom ne dort ses 8 heures par nuit en se nourrissant de quinoa. L'écriture étant le domaine du lâcher-prise, l'addiction est la meilleure amie de la création. Et s'il faut encore une preuve, elle est là sous forme de roman. Ça s'appelle L'Amant Noir, signé Étienne de Montetti, paru chez Gallimard. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, dans la haute société française. Un jeune homme, Fleurus de Clerc, tout un programme, se fait violence pour renoncer à être écrivain et honorer la tradition familiale en devenant militaire. Mais il part en Turquie, tombe amoureux de Constantinople, d'une femme et de l'opium. D'abord, c'est juste pour essayer. Ensuite, la pipe devient indispensable. Et voilà notre fringant officier, amaigri, malheureux, complètement dépendant de cet amant noir. Seul l'opium lui permet d'écrire, de réaliser ce rêve d'enfant. C'est donc l'histoire d'un homme qui dévie, puis qui dérive, racontée par la plume d'un conteur oriental. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche, une substance illicite avec Étienne de Montetti. Il nous livrera ses secrets de dépendance à l'écriture, ce sera le procès-verbal. Nous révélera ses addictions culturelles cachées, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire, vendeur d'opiacés de papier, ne vienne calmer nos imaginaires fumants.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Étienne de Montetti.
Bonsoir Clara.
Bon, vous n'avez pas l'air opiomane non plus, vous avez le teint frais, ça va. Comment est-ce que votre personnage, Fleurus Duclerc, et non pas Declerc, comme je l'ai dit dans l'intro, comment est-ce qu'il découvre l'opium ?
Il découvre l'opium à Constantinople, qui est un port, et dans les ports, il y a beaucoup de plaisirs interdits, c'est des lieux de transit, des lieux de passage, des lieux de transgression, et un ami qui s'est fait quelque temps plus tôt, qui est un Allemand d'ailleurs, va lui proposer une visite ou une rencontre dans une fumerie d'opium. Et l'opium éveille chez Duclerc, qui aime infiniment la poésie, qui aime tous les écrivains, les poètes que vous venez de citer. Évidemment, cette proposition rejoint véritablement l'idée qu'un grand poète a évidemment un commerce, une partie liée très très intime avec l'opium. Il y va séduit, et puis l'opium lui fait un tel bien, un tel effet, que finalement, il devient ce qu'on va appeler effectivement l'amant noir, c'est-à-dire une drogue, une substance avec laquelle il a un rapport extrêmement fort, quasiment charnel, parce que l'opium n'est pas n'importe quelle drogue, c'est une drogue pour laquelle il faut se coucher, il faut obéir à un rituel extrêmement précis. Je ne vais pas aller trop loin dans l'analogie sensuelle ou sexuelle, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et il va évidemment avoir avec cette drogue un rapport à la fois de bien-être et puis de destruction.
Alors chaque drogue apporte sa spécificité, vous parliez des effets des drogues, voici celle de l'opium.
Toutes les drogues apportent cette libération, seulement chaque drogue apporte également un aspect plus propre, plus particulier. L'opium et ses dérivés sont tellement euphorisants qu'en général suppriment toute impulsion à l'action. L'opiomane ne cherche plus qu'à s'asseoir, fumer son opium ou se piquer et vivre dans son nirvana.
Le docteur Katz, psychiatre en 1956, dans un premier temps, est-ce que l'opium euphorise Fleurus ?
Il l'apaise dans un premier temps. C'est pas vraiment un euphorisant, effectivement, mais plutôt un apaisement. Et Fleurus qui souffre des séquelles psychologiques et même physiques de la guerre, de la Première Guerre mondiale qu'il a faite et pour laquelle il a été blessé, il est très heureux tout d'un coup d'être déconnecté d'une réalité qui lui pèse énormément, qui le fait souffrir. Et cette espèce d'état d'apesanteur merveilleux alors lui donne une plénitude qu'il recherche en réalité depuis très longtemps.
Il dit « Ma tête ne cognait plus, j'étais allongé sur un matelas dans la position du fœtus, petit enfant fragile, l'opium était mon liquide amniotique. » Il y a un retour à l'enfance.
Oui, il recherche ce retour à l'enfance, cette période avant la guerre. Effectivement, la guerre de 14, c'était une grande rupture dans la société française, notamment pour un ensemble de familles qui ont vu surgir à travers cette guerre le monde moderne, beaucoup plus instable que le monde qui l'avait précédé, hein, le monde que décrit Proust, par exemple. Et effectivement, il y a quelque chose d'un retour à l'enfance, du moment où, au fond, on n'était pas confronté à la réalité de la vie parce qu'il y avait, des parents, il y avait un milieu qui protégeait des difficultés, de la dureté.
Mais pourtant, il tombe amoureux. Fleurus, il fait un peu sa vie. Il épouse sa dame. Et on se rend compte que l'amour ne fait pas le poids face à l'opium. Il ne va pas combler le vide, l'amour.
Non, parce que Fleurus, effectivement, est quelqu'un qui fait toujours un va-et-vient entre ses aspirations et la réalité. C'est un homme en fuite et qui donc cherche des planches de salut. Alors, la planche de salut, ça peut être effectivement l'affection de quelques femmes. Et l'opium est une deuxième planche. La troisième, je crois que c'est la poésie, la littérature. On en parlera peut-être tout à l'heure. L'opium a évidemment une puissance qui, et notamment parce qu'elle est quand même reliée à cette univers auquel il rêve, qui est d'accéder au monde de la littérature, des écrivains, et la vie amoureuse, aussi agréable soit-elle, au fond, assez vite est ramenée à une réalité un peu prosaïque. Après le temps du coup de foudre, la vie quotidienne s'en mêle, et il n'est absolument pas en mesure de renouveler l'amour qu'il a pour sa femme, notamment, puisqu'il
Mais
se mariera.
Après sa première nuit, il pleure. Il passe la nuit avec sa femme et il pleure après. Pourquoi il pleure? Parce qu'il comprend cette défaite d'emblée. Pourquoi ?
Non, je crois que c'est l'émotion qui le submerge. J'ai imaginé effectivement un être très sensible et donc qui a ce qu'on appelle le don des larmes. Alors, c'est qu'il libère des émotions extrêmement intenses. Les larmes ne sont pas un thermomètre, je dirais, très très fiable dans mon livre, me semble-t-il. L'amour, c'est quelque chose de fort, mais qui se menuisera assez vite. Alors qu'avec l'opium, les noces, je dirais, seront beaucoup plus longues et évidemment beaucoup plus destructrices.
Il y a le rite qui accompagne l'opium, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Voici Yves Salgues, écrivain et journaliste littéraire au Figaro. Écoutez comment est-ce qu'il parlait de sa pipe d'opium.
Elle est belle, elle est merveilleuse ivoire, avec une patine. Et celle-là qui est encore plus extraordinaire, qu'un connaisseur comme vous appréciera, avec le téton, en embout.
Ouais. J'étais bien jeune, vous savez.
Bon, il y a le décor est très important, il y a la lampe, il y a le grésillement, il y a la boule, la petite boule qu'on fait.
L'écrivain et journaliste littéraire au Figaro, Yves Salgues, qui parle du rite de l'opium.
Et il parle du rite de l'opium avec un fond sonore qui sont des chants militaires, parce qu'évidemment l'opium a partie liée avec l'armée, notamment l'armée d'Extrême-Orient, l'armée coloniale. Donc là il y a un univers très très cohérent. Et le rituel de l'opium, mais quelque chose en lien avec les cérémonies militaires, et peut-être même les cérémonies religieuses, c'est-à-dire ces moments où on prend du temps avec des gestes extrêmement précis, et où la personne qui les accomplit s'efface derrière quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui le dépasse, et ça donne les liturgies religieuses, les cérémonies militaires et aussi ces rites auxquels l'homme s'adonne pour des raisons très mystérieuses d'ailleurs, et notamment tout ce qui a trait à la pipe, que ce soit la pipe d'ailleurs de tabac anodin qu'on fume chez soi et qui nécessite du temps et un rituel.
Très vite, l'opium s'impose. C'est un amant assez dévorant. Fleurus dit « je suis ». Je ne sais pas comment on prononce, Nien, N-I-E-N,
ah oui, Nien. Oui,
qu'est-ce que ça veut dire?
Les opiomanes forment une sorte de petite société secrète avec tout un vocabulaire et des coutumes et des noms de code. Alors l'amant noir est un de ces termes, il y a le chandou aussi, il y a Nien ou Nien, effectivement. Et tout ça, ça fait que non seulement on est pris par l'opium, mais on est aussi pris par toute cette société avec ses codes et ses rites. Et je crois que c'est quelque chose qui aussi, pour Fleurus, est extrêmement plaisant, c'est l'idée d'appartenir à une société.
Alors cela dit, je suis nienne, ça veut dire je suis en manque quand même. Il n'y a pas loin du mot rien. Nien, rien, il y a juste une lettre qui change.
Oui, c'est vrai, ces mots sont étranges et pas forcément reconnaissables. On se demande pourquoi ils sont utilisés, prononcés. Mais véritablement, et il suffit de lire des livres sur le sujet ou de s'informer un petit peu sur l'opium, ses dérivés, ses utilisateurs, il y a ce vocabulaire tout à fait étrange.
Il y a ce fameux poème de Maurice Magre, « Je suis le sombre oiseau des vieux soirs
d'amertume oui. »
qui parle de l'opium. C'est très littéraire comme drogue.
Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle plaît à Fleurus Duclerc. C'est qu'elle le renvoie à Baudelaire, à Magre évidemment, Théophile Gautier. Et que là encore, elle lui donne l'impression qu'il va pouvoir entrer dans une confrérie.
Cela dit, c'est la version un peu romantique, parce que dans les faits, Fleurus, il se heurte quand même à une sacrée dépendance. Et puis, ça lui donne un point de commun, figurez-vous, avec Chet Baker. Vous allez voir.
Je crois pas que je puisse jouer sans la cam.
Prends pas le risque. T'as qu'à pas jouer. Ou prends la méthadone. Jusqu'à présent, t'as très bien joué avec ça. T'as été super.
Ça me donne confiance en moi. C'est vrai, Dick. Je perds la notion du temps, tu vois. C'est pas que ça s'allonge, c'est que j'arrive à... Oh, c'est que j'arrive à rentrer dans chaque note. C'est vrai.
Dans chaque note.
Oui.
Un extrait du film Born to Blue, sorti en janvier, le biopic à propos de la vie de Chet Baker. Pour Fleurus, c'est un peu pareil, Étienne de Montetti, c'est l'idée qu'il ne peut pas créer sans l'opium.
Il le croit. En réalité, il est possible qu'il aurait pu créer, et bien mieux, en pleine condition physique, mais il a cette illusion que c'est l'opium qui va l'aider à encore une fois, accéder à cet univers qu'il a sublimé, qui est la littérature. C'est le drame de l'addiction. On pense qu'elle est nécessaire pour créer. En réalité, on ne sait pas ce qu'aurait été Duclair sans l'opium. Probablement quelqu'un en meilleure santé et peut-être un meilleur créateur.
En même temps, on ne sait pas si Balzac aurait écrit la comédie humaine en carburant à la verveine menthe. Il avait la caféine.
C'est vrai, c'était pour se tenir éveillé.
Ouais, c'est ça. On s'est demandé ce qu'il aurait pu écouter, Fleurus, tout en planant, Étienne de Montetti. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on a pensé à Ça plane pour moi de Plastique Bertrand. Et puis, non, c'est de mauvais goût. On a opium. Renoncé. Et bien sûr que c'est Opium, Fumée de rêve de Louis et Virginie Ledoyen qui a remporté le morceau. Un chant qui vient d'Indochine, qui était fredonné par des marins.
Dans le port de Saigon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, dont on connaît pas le nom.
Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds.
Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel.
Étienne de Montetti est avec nous jusqu'à 20h pour son roman L'âme en noir, l'histoire d'un jeune homme bien né, Fleurus Duclair, qui dérape et bascule dans l'opium. Fleurus est tiraillé entre sa bonne éducation, son orgueil de classe et sa condition de toxicomane. Donc, Étienne de Montetti, est-ce un hasard si vous avez situé l'action de votre livre dans l'entre-deux-guerres ? Cette période, elle ressemble à Fleurus, elle est entre.
C'est vrai, vous avez raison, c'est un homme de l'antre, E-N-T-R-E. C'est un homme en fuite, et il n'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout de sa fuite. Donc entre son point de départ, son enfance, son milieu, effectivement, cette avant-première guerre mondiale assez agréable pour lui, et puis après la guerre, il court, il s'enfuit, il va d'ailleurs à Constantinople, qui est une ville d'antre, entre l'Europe et l'Asie, hein, et il y va parce qu'il a beaucoup rêvé à l'Orient. Il fuit un continent qui a connu la guerre, qui a connu l'horreur. Il fuit aussi une société qu'il estime peut-être un peu trop étriquée pour ses rêves d'adolescence, ses rêves littéraires notamment. Et puis il va aussi à Constantinople parce que c'est la ville de Chénier, où Chénier est né. Et c'est la ville tant chantée, fantasmée, rêvée par Pierre Loti, qu'il a beaucoup lu, qu'il a beaucoup aimé. Et il va essayer de retrouver à Constantinople tout ce qu'il a aimé dans les livres de Loti.
Une ville à la croisée.
Ces détroits sont souvent considérés comme une des passerelles entre l'Europe et l'Asie. Istanbul serait donc à la fois une ville européenne et une ville asiatique. Alors on le voit, Istanbul est un carrefour géographique, mais c'est aussi devenu au fil des siècles un carrefour historique et donc culturel.
L'émission Le Dessous des Cartes sur Arte en 2015, donc une ville qui ressemble à Fleurus puisqu'elle est à la croisée, c'est une ville carrefour. Cela dit, Fleurus y découvre un peu ébahi la vie heureuse des expatriés. On a l'impression que c'est un monde clos, en même temps c'est un monde bizarrement ouvert. Il ressemble à quoi ce monde des expatriés, Étienne de Montetti ?
Il ressemble à une société qui est à la fois reconstituée petite ville française, une petite ville occidentale. Mais évidemment, comme c'est à Constantinople, c'est une société extrêmement mêlée, et ça c'est une découverte pour Fleurus, qui a vécu dans un monde socialement très homogène, hein, comme ça pouvait être le cas vers 1910 en France. Et la société des Levantins, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, c'est-à-dire une bourgeoisie, souvent d'origine commerçante, et qui venait d'Italie, de Grèce, de Malte, de France. Et puis Constantinople, à l'époque où il y va, tout lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est une ville sous tutelle, d'une certaine manière, des Français, des Anglais. En 1917, un ensemble de Russes, les Russes blancs, ont quitté leur pays à cause de la Révolution et ils ont débarqué où ? Ils ont débarqué à Constantinople. Donc il y a toute cette société exilée, loin de ses bases, loin de ses repères habituels et qui est dans une sorte de fête un peu folle, un peu continue, et lui qui...
Avec des jolies dames,
et on s'amuse beaucoup, on a beaucoup de moyens à Constantinople, le pouvoir d'achat, je pense que l'européen est considérable, et Fleurus qui arrive, et évidemment le garçon un peu à la mode, charmant, bien élevé, et puis comme il aime énormément la poésie, il aime la musique, il aime la chanson, il va devenir un peu le chouchou, celui qui crée des spectacles pour amuser la société de ce qu'on appelait à l'époque Péra, c'est-à-dire le quartier européen de Constantinople.
Il subit un autre entre-deux, votre Fleurus. Il est militaire alors qu'il veut être écrivain. Sa famille voit ça d'un très mauvais œil, écrivain. Je cite, « Un écrivain était à leurs yeux cet individu qui se répand, exprime ses sentiments, raconte ses maladies, ses déboires, les inflige aux autres. Pouah ! Ça ne se fait pas. »
Alors ça, c'est le paradoxe d'une société, d'une société qui est lettrée, qui lit et qui écrit et qui même aime l'écriture. C'est un monde que je connais assez bien, dans lequel il est bien vu, bien porté d'écrire des lettres, d'écrire des compliments, d'écrire des discours avec des citations, avec des vers, avec un peu de latin, tout ça est très très bien. Et donc, c'est important de savoir écrire. Et dans le même temps, si un membre de cette société cultivée décide d'en faire, non pas un métier, mais un état, c'est-à-dire l'écriture de poésie ou l'écriture de roman, où on se dévoile, on se déboutonne, on met sur la table ses tourments, on met sur la table ses malheurs, même de manière indirecte, je ne suis pas de parler d'autofiction ou quoi que ce soit, mais alors là, tout d'un coup, l'écrivain a très mauvaise réputation, c'est effectivement le poète maudit, échevelé, famélique et de réputation assez douteuse. Et donc il y a ce paradoxe qui, pour Fleurus, entre son éducation et son aspiration.
D'autant qu'à un moment, il dit faire carrière d'écrivain, mais faire carrière pour mes parents, c'était tellement un truc de bourgeois, alors qu'eux, ils sont beaucoup plus élevés au-dessus du terme de carrière.
Mais oui, mais oui. Parce que là encore, dans cet entre-deux-guerres, il y a toute une société à qui il est arrivé quelque chose d'assez violent, c'est qu'il a fallu qu'elle travaille. Et ça a été pour beaucoup de gens, évidemment, un drame.
Il tente de s'arrêter, Fleurus, hein. Il tente une cure. Jean Cocteau aussi avait tenté de se sevrer.
Dans Opium, j'étais enfermé dans cette chambre de clinique. Je ne lisais presque rien, je ne lisais que ce que l'infirmière apportait dans ma chambre des livres de Féval. j'avais le temps de m'entourer moi-même, de me regarder, de m'observer moi-même. Alors j'ai dit des choses sur la désintoxication et puis sur d'autres inquiétudes qui sont, parce que tout est une intoxication, quand on mange c'est une intoxication, quand on crée c'est tout est une intoxication. Alors le problème de désintoxication ne touchait pas seulement à l'opium mais touchait à tout le reste.
Jean Cocteau, le 28 mars 1951 sur l'ORTF, Étienne de Montetti, vous avez dressé l'oreille en disant « je crois savoir de quoi il parle ».
Oui, parce que Jean Cocteau fréquentait une célèbre clinique de désintoxication où pas mal d'écrivains allaient. Et c'est là où j'ai situé la cure qu'on propose à Fleurus pour se désintoxiquer. Et le directeur de la clinique lui dit « ah, vous êtes écrivain, mais vous savez, nous avons certains de vos confrères qui viennent. Et pas plus tard que le mois dernier, était assis à sur votre chaise, monsieur Cocteau, etc. » Il y avait un endroit très célèbre à Saint-Cloud, sur la colline de Saint-Cloud, qui servait aux écrivains pour se débarrasser de la drogue.
Alors visiblement, quand on écoute Cocteau, se sevrer de l'opium, c'est se sevrer de la vie, quoi. C'est la désintoxication, elle concerne tout. Il faut arrêter de vivre si on consomme plus d'opium. Quand même. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Arrive la Seconde Guerre mondiale, Étienne de Montetti, et c'est là où on se rend compte que Fleurus est un petit peu discutable. Il se trouve qu'à Paris, en 39-45, il se lie d'amitié avec un Allemand qui est fou de poésie, comme lui. Est-ce que ça fait de Fleurus un traître ?
C'est une question que je pose, à laquelle je réponds pas bien. Effectivement, est-ce que la poésie, qui est quelque chose qui peut réunir les pays, au-delà des régimes, au-delà des guerres, est-ce que la poésie peut réunir deux hommes alors que les nazis occupent Paris ? Il se pose la question, Fleurus, et il est désespéré parce que ce qui est intéressant, c'est que la Première Guerre mondiale, il l'a faite, et il l'a faite très courageusement, très convenablement. Et la deuxième, lui qui était militaire au départ, qui était officier, il passe complètement à côté. Il n'est dans aucun camp, il ne se battra pas, il n'est plus en mesure physique de se battre. Il est donc une sorte de témoin un peu hagard de la guerre, de la défaite et de l'occupation. Et puis survient ce dilemme cornélien, c'est vrai. Est-ce que réciter de la poésie avec quelqu'un avec lequel on s'est lié d'amitié, est-ce que c'est collaborer, est-ce que c'est trahir son pays ? Et il n'arrive pas à répondre parce qu'il a peur que la réponse, au fond, condamne aussi la poésie. Et à un moment donné, je lui fais dire la chose suivante, est-ce que, après Nagasaki, après les horreurs que la guerre révèle, les bombardements sur l'Allemagne, et évidemment la révélation de la Shoah, mais ça j'en parle pas parce que ça serait un anachronisme dans mon livre, mais est-ce que toutes ces horreurs, quelles sont-elles au regard de la poésie que lui a sublimée, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dérisoire, de sublimer des mots, de sublimer des rythmes, alors que l'humanité est entrée dans une phase d'horreur absolument épouvantable.
Vous posez implicitement la question de la conscience de la littérature.
Oui, bien sûr.
Et il se trouve qu'en plus, Fleurus a un éditeur qui s'appelle Kalman Levy et qui subitement ne répond plus à l'appel, où la maison d'édition est fermée, chose qui s'est réellement passée.
Bien sûr, elle a été arianisée, comme on disait, elle a été confisquée, elle a changé de nom. Alors, à ce moment-là, Fleurus, qui n'est plus du tout en mesure d'écrire et de publier, découvre cet état et se dit simplement que le fait de ne pas avoir écrit de manuscrit lui a évité de se compromettre dans cette histoire épouvantable. C'est-à-dire qu'il n'a plus les moyens physiques et psychiques, véritablement, de poser un acte de volonté en disant « je n'éditerai pas dans une maison que l'occupation allemande a spoliée ».
Donc oui, la littérature a une conscience, vous répondez implicitement aussi.
Moi, Étienne, je réponds, mais Fleurus a du mal à répondre à cette question.
Il est temps de nous révéler les secrets de votre addiction à vous, Étienne de Montetti, à savoir l'écriture, et puis là, vous devrez répondre. Plus un geste, c'est l'heure du procès verbal. Votre nom ?
De Montetti.
Prénom ?
Étienne.
Vous écrivez assis, couché ou debout ?
Assis.
Sur ordinateur ou sur papier ?
D'abord sur papier avec un stylo plume et ensuite sur ordinateur.
Vous êtes chez vous ou vous êtes au café ?
Je suis chez moi.
Avec de la musique ou du silence ?
Du silence parce que l'heure à laquelle j'écris est très très silencieuse.
Il est quelle heure ?
Il est 5h30 du matin.
Jusqu'à quelle heure ?
Environ jusqu'à 7h, 7h30, heure à laquelle ma famille se réveille.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez ?
D'abord, je vois une ville endormie, silencieuse. obscur. Et puis peu à peu, je vois quelque chose qui me réjouit. Ce sont les volets de mes voisins et des appartements qui sont en face de chez moi et qui peu à peu s'allument. Et puis des volets ou des rideaux qui s'ouvrent. Et j'ai un sentiment immense de puissance. C'est l'impression d'avoir de l'avance sur les autres.
Est-ce que vous avez un rituel avant de vous mettre à écrire, fumer de l'opium, bon, enfin, rien à faire, boire un gin?
Alors le rituel, c'est de ne rien faire, parce que si je commence à faire des gestes de la vie quotidienne, par exemple de me faire un café ou de me dire tiens je vais prendre mon petit déjeuner, ça devient alors là une tentation qui me submerge et je ne me mets pas à écrire. Donc je sais que si je dois me mettre à écrire, je dois commencer par le faire et c'est seulement au bout d'une heure, une heure et demie, je me lèverai, j'irai boire un verre d'eau ou faire quelque chose. Mais si je commence à rentrer dans la vie quotidienne, alors ça, je sais, je n'écrirai pas une ligne.
Qu'est-ce que vous faites quand ça vient pas?
Je fais des gammes. J'écris des choses. Je prends un livre que j'ai apporté pour avoir quelques informations sur le sujet sur lequel je travaille. Et je fais des gammes et je sais que ça vient. Le restant de la journée, je suis journaliste, je sais quand même que l'écriture, même si c'est pas des choses que je garderai pour mon livre, c'est aussi comme la course à pied, il faut courir, il faut faire un pas devant l'autre pour courir. Et là, j'écris. Oui, je fais des gammes.
Merci Étienne de Montetti pour ce procès-verbal. Et puisque vous avez écrit sur un dandy junkie, il y en a un autre, son jumeau de chanson. J'ai nommé Dave Gahan, chanteur du groupe Dépêche Mode. Oui, mais ils sont toujours fringants, eux. La preuve, ils sortiront un nouvel album le 17 mars. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Écoutez la Muse-Bouche jusqu'à 20h en compagnie d'Étienne de Montetti pour son roman L'Amant Noir, autrement dit L'Opium. Étienne, je vous emmène dans une confrérie secrète d'accros, au livre cette fois. J'ai nommé les libraires. Ils ne carburent qu'à ça. Ils s'intoxiquent la tête avec des pages et des pages. On a tout essayé pour les sevrer, mais il n'y a rien à faire. Et je ne sais pas pourquoi, ta, ils nous appellent. N'est-ce pas?
Magnifique.
La sonnerie spéciale Florus. Allô ?
Oui, bonjour Clara, c'est Sarah, j'appelle pour l'apéro.
La bonne idée ! Est-ce que vous ne seriez pas Sarah Gastel de la librairie Terre des Livres à Lyon ?
Parfaitement.
Vous n'êtes pas opiomane ?
Non, pas
bon,
encore.
Bravo à vous. Alors Sarah, quelle est la situation la plus farfelue que vous avez vécue dans votre boutique ?
J'ai pensé en fait à une petite histoire que je trouve très très drôle rétrospectivement, mais qui m'a complètement mortifiée sur le moment. Pour vous dire, en fait, nous sommes ouverts non-stop en semaine, 10h-19h, mais le samedi, on s'octroie une heure de fermeture bien méritée pour manger entre collègues.
Grand fou, va.
Voilà.
Et une donc, heure, malheureux.
Et c'est ça, oui.
Fumiste.
Et donc, un samedi à moins 5, 13h-5, avec ma collègue, on commence à éteindre les lumières au rez-de-chaussée, à l'étage, tout en papotant, en rigolant. On prend nos affaires et on file dardard au parc pour déjeuner au soleil. Voilà. Nous revenons à la librairie une heure plus tard, et là, quelle ne fut pas notre surprise, nous découvrons une personne à l'intérieur de la boutique.
Abandonnée.
On l'avait oubliée.
Ah bah bravo. Ah voilà. Bravo.
Mais en bonne compagnie.
Mais en bonne compagnie.
Avec des livres.
Je suppose qu'elle a en fait beaucoup aimé cette expérience.
C'est vrai que rester enfermé dans une bibliothèque, c'est toujours mieux que dans une boutique.
Dans un ascenseur.
Un ascenseur.
Conduit
voilà.
À l'échafaud, oui, ou alors, oui, c'est mieux.
Ou une boutique de mobilier, voilà. Par exemple.
Donc les libraires sont tête en l'air.
Quel roman conseilleriez-vous à notre invité Étienne de Montetti ?
Oui, alors bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors en fait, j'avais à cœur de vous parler d'un ouvrage intitulé La chair de Rosa Montero, paru au mois de janvier aux éditions Métayer, où il est aussi question d'addiction.
Ah.
Car en fait, oui, tout à fait. Car
à la
notre
chair.
héroïne Soledad, 60 ans, commissaire d'exposition, est accro, elle, eh bien, à l'arôme puissant de la chair, aux passions éphémères avec de beaux effets. Et du coup. Un jour, afin de rendre jaloux son dernier amant, elle engage un gigolo à prix d'or. Adam, 32 ans, 1m91, cheveux noirs. Bon, le rêve. Une relation, du coup, énigmatique, se noue alors entre les deux personnages.
Uh-huh.
Voilà pour ce qui est de l'histoire en deux mots. Et en fait, tout le talent de Rosa Montero, c'est que sur ce canevas, digne vraiment d'Almodovar, elle va disséquer un corps féminin en proie aux affres du temps qui passe et les angoisses qu'il génère. La déliquescence du corps est au cœur du roman, et c'est vraiment avec une folle intelligence psychologique que l'auteur madrilène livre une réflexion mordante sur la vieillesse et la solitude.
Et en plus, elle nous glisse le message qu'il n'y a pas d'âge pour forniquer.
Ouais, tout à fait.
Pour le dire très trivialement.
Un roman, un brin cruel et résolument drôle, mais un beau texte qui console, enfantin et sauvage à l'image de son personnage. Je vous le recommande chaleureusement.
Vous nous redonnez les références, Sarah ?
Oui, donc il s'agit de La chair de Rosa Montero, aux éditions Métayer.
Merci Sarah Gastel de la librairie Terre des Livres à Lyon et merci au magazine Page dépendant à cette drogue dure qu'est la littérature, partenaire de la Muse-Bouche. Sarah, on vous attend pour boire un verre, sans verser
avec
dans...
plaisir.
On va pas verser dans l'addiction, hein, ne craignez rien, ça c'est pour nos amis du CSA. À tout de suite Sarah.
À tout de suite, merci Clara.
C'est l'heure des inavouables. Étienne de Montetti, oui bah, on a beau être le roi de l'opium, on n'en est pas moins homme, donc faillible. Y a-t-il une chanson, un film, un livre, catalogué un peu has-been que vous aimez discrètement, Étienne de Montetti?
Il y en a beaucoup, oui.
Commençons, je ne sais pas, par une chanson, par exemple.
Hervé Villard.
Ah, Hervé Villard. Et laquelle de Hervé Villard?
Mais nous, par exemple.
Mais bien sûr, nous.
Pourquoi je pense à nous. C'est comme un défi au temps.
On l'a dans la tête après.
Le printemps avant le printemps. Un chemin qui va n'importe où. Et semer de roses partout. Nous, c'est une illusion qui meurt.
Nous, on adore. Hein. On est dans le studio en train de. D'être complètement. C'est planant. Mieux que l'opium. Et alors, dites-nous, Étienne de Montetti, pourquoi celle-là d'Hervé Villard? Pourquoi nous?
Elle est associée, je crois, à mon enfance, mon adolescence. Je me souviens plus bien de la date de cette chanson.
Mais j'ai... 1979.
Voilà, donc j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Moi, je fais partie d'une famille où il n'y avait pas la télévision. Mon petit côté famille Duclerc. Et alors, quand on n'a pas la télévision, qu'est-ce qu'on fait? On lit beaucoup, première chose, première addiction. Et la deuxième, c'est que mes parents m'avaient offert, quand j'avais 12-13 ans, un transistor. C'était à l'époque le moyen pour écouter de la musique. Il n'y avait pas encore le MP3, l'iPod, l'iPhone, etc. Et je crois que j'ai énormément écouté la radio à ce moment-là. C'était les radios périphériques, parce que la bande FM n'existait pas. Elle existait, mais peut-être pas comme aujourd'hui. Et j'ai souvenir que ces tubes, de, notamment l'été, passaient, mais tout le temps. Ce qui fait que je les ai écoutés, aimés. et appris par cœur, je crois, sans m'en rendre compte, et sans savoir si entre Hervé Villard et Louis Aragon, il y avait une réelle différence.
Mais moi, je trouve ça un magnifique compliment à toute la variété populaire.
Et quand on entend des chants d'Hervé Villard, moi, je me demandais si c'était pas au fond cette poésie dont on nous parlait par ailleurs, Victor Hugo et Aragon.
Alors des fois, il y a quand même une petite différence entre Didier Barbelivien et Victor Hugo. Je pense à la chanson « Reviens » d'Hervé Villard, par exemple. Mais que j'adore. Est-ce que vous l'aimez, celle-là ?
Ah ben oui.
Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie.
Vous savez qu'on est en train de tuer les programmateurs de France Inter, là. Et là, ils ont tous un arrêt cardiaque. Il y a une série de cadavres dans les bureaux.
J'ai gardé une place au soleil.
Ça,
pour toi.
Ça, c'est pour
moi. Pour moi.
C'était pas prévu, celle-là.
Oui, j'ai fait l'amour avec elle. De toi à moi. La main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien.
C'était notre séquence Hervé Villard, Étienne de Montetti et moi. Hervé Villard, il a quand même vendu plus de 40 millions d'albums. Alors,
mais
on ne doit pas être les seuls à aimer.
Mais pas du tout.
Voilà. Et il y en a marre des choses cataloguées inavouables, alors que c'est des petits chefs-d'œuvre qui nous font trembler le cœur. Dites-moi, Étienne de Montetti, est-ce qu'il y a un film qui est catalogué un peu ringard et vous qui vous met en joie?
Je crois que c'est Camping.
Ah, Camping. Vous savez qu'on adore ici, nous.
Ah ben, j'en suis sûr.
Et comment est-ce que l'homme rassé et élégant que j'ai devant moi peut-il bien flancher pour Patrick Chirac, alias Franck Dubosc?
Mais parce que le réalisateur du film, Antoniente, si ma mémoire est
Fabien
bonne,
Antoniente,
a une très très bonne idée dans le premier, c'est qu'il m'a mis au milieu du camping, puisqu'avec l'arrivée de Gérard Lanvin, l'avocat totalement étranger à soutenir du camping, mais qui est tombé en panne de voiture devant le camping des Flots Bleus, finalement, il est devenu l'ambassadeur de tous les Français qui ne connaissent pas le camping dans cet univers insolite qu'on ne connaît pas forcément très bien. Et donc, moi, j'ai trouvé ça merveilleux de découvrir à travers les yeux, à la fois il serré, puis assez vite attendri de Lanvin. Il s'appelle Michel, je crois, dans le film. Et puis tout d'un coup, il y a un deuxième degré qui s'installe et ça devient ce qu'on appelle un film culte.
Eh bien, on a un amuse-bouche des oreilles, juste pour vous.
Je vous rappelle les basiques. Ré, ici, pas de drogue.
No stupefiante.
Je suis perdu, Patrick. Puis un soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay à Nantes. Le croque, monsieur. Alors là, bientôt reçu, j'ai parlé avec un type sympa. Il dit que je suis un mec.
Ce serait pas un peu la Caïra qui déboulerait chez nous?
T'es raciste?
Moi, raciste? Ah, je suis de gauche.
Bonjour.
J'ai une photo du camping.
Ah bah dites-le, Étienne, allez-y.
J'ai une photo du camping sur mon portable parce qu'un de mes enfants est passé cet été devant le camping qui sert de lieu désormais mythique au film Camping et il m'a évidemment envoyé rien que pour moi la photo du camping des Flots Bleus.
Et ben on rappelle quand même que le premier numéro de Camping a fait plus de 5 millions d'entrées, donc là non plus nous ne sommes pas seuls et le petit son qu'on vient d'entendre c'était Camping 3. C'est en tout cas sur ces paroles Camping que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Au menu que des substances interdites, alors venez nombreux, y compris vous aussi membres du CSA. L'amant noir d'Étienne de Montetti est paru chez Gallimard. La semaine prochaine, nous recevrons Pierre Bordage pour Arcane, paru chez Bragelonne. L'amuse-bouche est dépendant de Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Jean-Noël Vélan. Après 20h, vous retrouvez Zoé Varier pour D'ici d'ailleurs. Bonne semaine, n'oubliez pas d'être accro au livre, toujours au livre. Je vous embrasse et à samedi.